Deutsche Welle. Le club de l'auditeur.
Mettre le doigt là où cela fait mal, c'est nécessaire pour informer les citoyens et garantir la transparence démocratique, mais c'est souvent périlleux. Les journalistes en savent quelque chose, par exemple en République démocratique du Congo, entre autres. C'est le sujet de cette édition du Club des auditeurs et internautes, animée par Mireille Drone, comme tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 7h, temps universel, sur les ondes de la Radio Internationale Allemande. Bienvenue à toutes et à tous. Et comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui nous envoient des messages de sympathie ou commentaires divers, comme Rodrigo de Sao Paulo au Brésil par exemple, Badalikoa Danié au Togo, Amadou de Bamako au Mali, Davis d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Kioma de Lagos au Nigeria, Évariste de Bangui en Centrafrique, Laidri de Kinshasa en RDC et Mahamat de Kelo au Tchad. Et puis félicitations à Sédou d'Anoumaba en Côte d'Ivoire, à James de Goma et Thomas de Bumba, tous les deux en RDC, et à Richard de Kigali au Rwanda. Ils ont fêté, mais oui, cette semaine, leur anniversaire.
Pour donner le meilleur d'elle-même, apporter du sien au développement et à la stabilité de nos pays, la presse a besoin de liberté, laquelle nécessite que soient supprimés les délits de presse, qu'il y ait d'organes de régulation, mais aussi de déontologie un peu souple. Assujettir le journalisme à ne dire que ce qu'il a vérifié, c'est donner libre cours au blanchiment de capitaux, etc. Il faut que le journaliste anticipe en rapportant même les rumeurs. N'est-ce pas grâce à la presse qu'on en sait un peu plus sur la dette extérieure de nombreux pays, dont le mien ?
Garantir à la presse la liberté de s'exprimer pour le développement des pays, c'est ce que souhaite Hyacinthe, auditeur de Nyanga au Congo-Brazzaville, qui nous a laissé ce message via WhatsApp. Et il n'est pas le seul. Camille du Tchad regrette le fiasco démocratique dans son pays, où prédominent les intérêts personnels, familiaux. Le peuple est terrifié, la liberté de la presse est bannie sous l'autorité absolue. Celui du président Déby, affirme notre auditeur, qui souhaite que son pays retrouve le chemin de la vraie démocratie. Et vous êtes nombreux, comme Jules de Lomé aussi, à dénoncer la répression et les intimidations, notamment à l'encontre de la presse, par exemple lors des manifestations, dès lors qu'elles sont contre le pouvoir en place. Coupure d'Internet, harcèlement des journalistes, répression des manifestations, telle est la réalité en RDC, pour commencer. Selon un rapport du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme à Kinshasa, rendu public cette semaine, les violations des droits de l'homme ont fortement augmenté en 2017 et sont liées à la restriction de l'espace démocratique. Les autorités congolaises ont eu systématiquement recours à des actes de harcèlement d'opposants politiques, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme dans le but de faire taire les voix critiques, selon le rapport. Alors, selon Reporters sans frontières et Journalistes en danger, organisation de défense des journalistes à Kinshasa, dont le secrétaire général a été victime d'une tentative d'enlèvement par des hommes se réclamant de l'Agence nationale de renseignement d'ailleurs, aucun assassinat de journaliste n'a heureusement été recensé en 2017. Mais le gouvernement livre une guerre farouche aux médias. Et tous les acteurs, de la police aux services de renseignement, en passant par l'armée et les groupes armés, s'en prennent aux journalistes. Alors comment travailler dans ce contexte? C'est ce que nous rapporte Alfred Boukouri, journaliste à Goma, dans l'Est de la RDC.
Bon, en fait, je veux dire que les cas survient le plus souvent quand il y a le marché pacifique, et parce que, comme vous le savez, le climat politique est vraiment tendu ici en RDC. Et quand il y a des marches, c'est à ce moment-là qu'il y a un peu de réticence. Et on essaie un peu de taper sur les journalistes, de les freiner même à prendre des images. Et par exemple, ici récemment, le 21, à la cathédrale Saint-Joseph, on a été contraint, disons, même de filmer parce que la police les pourchassait. Alors bon, peut-être ceux qui sont mieux placés, c'est dans les droits humains, quand ils sont un peu plus à côté des gens. Mais quand il s'agit d'être à côté des hommes politiques, surtout quand il y a des marches, là vraiment, on est contraint de travailler comme un journaliste digne de ce nom.
Oui. Parce que les autorités n'aiment pas trop qu'on fasse de la publicité sur les manifestations contre le pouvoir, bien sûr.
Oui, en fait, c'est ça. Ils ne veulent pas vraiment que les gens puissent avoir beaucoup plus d'informations sur les manifestations, comment ça s'est déroulé, où est-ce que, comment se portent peut-être les manifestants, quel a été le bilan. Ils essaient de donner d'ailleurs leur bilan, qui leur concerne, et c'est d'aller à la contre de ce que la presse a écrit sur le terrain. En fait, c'est juste une façon de contraindre les journalistes à ne pas donner les vraies informations.
Mais est-ce que les journalistes sont tentés aussi d'ailleurs de faire peut-être un peu d'autocensure pour éviter de terminer en prison ou que leur matériel soit confisqué ou cassé?
Oui, en fait, il y a souvent des appels de l'Union nationale de la presse congolaise, section du Nord Kivu, qui essaie un peu de dire encore aux journalistes de respecter leur code d'éthique et de déontologie, en fait, de ne pas dérailler et de respecter surtout les sources d'information, ne pas prendre n'importe quelle information ici, si c'était le climat politique est toujours tendu.
Mais est-ce que le harcèlement des journalistes dont on parle et les difficultés du métier sont dues uniquement à la répression étatique, c'est-à-dire des policiers, par exemple, ou de l'armée? Ou est-ce que vous souffrez, par exemple, justement à Goma ou dans l'est de la RDC, aussi des groupes armés qui s'en prennent aussi peut-être aux journalistes?
Bon, en fait, le plus souvent, à Goma, il n'y a pas de groupes armés, c'est RDC parce que c'est la capitale provinciale. Mais peut-être dans les fins fonds, oui. La province, par exemple, un territoire de Rutshuru et en Massissi, et dans les fins fonds de Beni. Parce qu'à Beni, il y a eu récemment, on a kidnappé un directeur de la radio là-bas. Et voilà, c'est de la sorte que ça se passe. Mais jusqu'à présent, après lui, il n'y a pas encore un autre journaliste qui a été contraint de faire son travail. C'est peut-être aussi à Rutshuru, c'était lors de la marche, mais ils étaient libérés, on leur avait donné leur matériel. Mais là, il y a les groupes armés. Pour le moment, c'est un peu calme, il n'y a pas de tracasserie auprès des journalistes.
Vous dites que vous êtes journaliste pour les droits humains, c'est-à-dire quelle est votre motivation principale dans votre métier de journaliste?
Bon, en fait, ma motivation principale, c'est juste donner la parole à ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire les personnes qui sont un peu plus vulnérables, essayer un peu de présenter leurs histoires au monde entier pour qu'ils sentent que vraiment il y a nécessité. Ceux-là qui ont le pouvoir d'intervenir auprès d'eux, de les aider, de soulager leur vie pour qu'ils deviennent, qu'ils aient de meilleures conditions de vie, qu'ils puissent les aider. Et peut-être plus tard, nous allons élargir notre champ vers Beni, la ville de Beni, parce que là, il y a un plus de violation des droits humains à sentir, aller voir qu'est-ce que les gens essaient un peu de raconter par rapport à ce qu'ils vivent, la guerre avec les ADF. Et c'est de la sorte que nous comptons travailler d'ici là.
Mais justement, vous parlez des populations, de donner la parole à ceux qui n'en ont pas. Est-ce que vous avez l'impression que les Congolais, de façon générale, enfin autour de vous, font confiance à la presse, se sentent justement bien informés par les journalistes? Oui, qu'ils ont confiance aussi pour leur raconter leurs histoires?
Bon, actuellement, comme la situation politique est plus tendue, je pense et je suis sûr qu'ils s'intéressent plus vraiment aux médias, de lire et de partager même ces informations dans leur groupe WhatsApp. Et voilà ce qui crée peut-être une autre diversité culturelle et scientifique par rapport aux médias et à la façon de faire des journalistes. C'est un moyen vraiment de faire circuler les informations parce que nous l'avons aussi constaté ici. Récemment, quand il y a une coupure d'Internet, on a vu que c'était un peu timide. Peut-être nous autres qui utilisons les réseaux du Rwanda, on essayait un peu de se connecter. Mais les autres, c'était vraiment catastrophique.
Oui, justement, vous évoquiez donc les coupures d'Internet. On coupe les radios aussi. Et Internet, c'est quand même donc un frein à la liberté d'expression.
Oui, oui, surtout ça, parce que on l'a vu le plus souvent ici chez nous, et ça aussi c'est un frais, parce que c'est un moyen, étant donné que la Constitution aussi garantit cette liberté d'expression.
Oui.
Et peut-être le mal, c'est de déborder, d'aller au-delà. Mais si on est dans les limites, dans les justes milieux, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. C'est parce que peut-être le pouvoir, ils ne veulent pas voir à ce que le monde, tout le monde sait qu'ils sont en train de faire, et peut-être ils essaient un peu de freiner et calmer les jeux, mais bon. Toujours il y a la vérité toujours qui vaincra.
Notez que pas plus tard que cette semaine encore, un journaliste d'actualité CD et médias en ligne de Kinshasa a été interpellé par l'armée dans la périphérie de la capitale alors qu'il prenait des photos d'un véhicule transportant des pains impropres à la consommation, destinés à la vente en prévision de la publication d'un reportage sur l'épidémie de choléra à Kinshasa. Il a été brutalisé, emmené par des militaires dans un poste du service de renseignement militaire local. Le journaliste a été menotté puis conduit dans un cachot de fortune. Après avoir visualisé son téléphone, l'agent l'a accusé d'incitation à la haine et d'outrage au chef de l'État. Ses deux téléphones portables et un modem ont été confisqués. Après 8 heures de privation de liberté, le journaliste a été sommé de se présenter le lendemain, accompagné de sa hiérarchie. C'est alors que ses effets confisqués lui ont été restitués. L'Observatoire de la liberté de presse en Afrique a condamné cette interpellation abusive d'un professionnel de presse dans l'exercice de son métier et a appelé les autorités à respecter la liberté de presse garantie par la loi congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. En Guinée, la situation des journalistes n'est pas très enviable non plus, avec à la clé manifestations réprimées, matériel cassé, journalistes menacés et maltraités. Jeudi dernier, le procès de Moussa Moïse Sylla, co-animateur de l'une des émissions les plus écoutées du pays, a été renvoyé au 22 février après des débats houleux entre les parties sur la forme du dossier. Selon Diara Egirassi, journaliste à Radio Nostalgie à Conakry, tout le monde s'y attendait.
C'est comme toujours, on s'attendait à un report, vu que depuis que cette affaire a commencé, le procès a été reporté, ça fait la deuxième ou troisième fois. Et donc, on s'attendait déjà à cette décision.
Et qu'est-ce qu'on lui reproche très exactement, finalement?
En fait, il est poursuivi pour atteinte au secret de défense qu'il aurait révélé des informations dans l'une des émissions phares du pays qui s'appelle Les Grandes Gueules,
c'est
concernant
ça.
L'armée.
Mm-hmm.
Et nous savons quand même que l'Afrique de l'Ouest, actuellement, il y a eu des menaces du terrorisme. Donc révéler des informations classées top secret pourrait quand même prouver la vulnérabilité du pays. Et donc il est poursuivi pour ça.
Et donc on pense que c'est normal parce qu'on sait que tout ça, ça intervient dans un contexte de tension quand même avec les journalistes dans le pays. Puisqu'on sait que bon, des journalistes ont manifesté, des manifestations ont été réprimées même violemment. Certains sont menacés, voire même maltraités.
En fait, à l'allure où vont les choses, Nous pensons que nous sommes au 21e siècle. C'est pas la façon dont on doit traiter un journaliste, quel qu'en soit le niveau. Je pense bien que les journalistes, ils méritent quand même d'être protégés, d'être sécurisés. Ils ont droit à exprimer leur opinion, comme ils ont le devoir d'informer la population sur ce qui se passe. Et c'est ce que nous faisons. C'est pas seulement le cas Moussa Moïse, nous avons vu comment ça s'est passé. Nous avons vu comment nos confrères ont été molestés à la gendarmerie dans cette même affaire. Et j'ai des consoeurs qui ont été frappés. En fait, la finalité, ça a été ça, quoi. Tout le monde se tait et ça s'est passé au vu et au su. Tout le monde, personne n'ose lever le petit doigt. C'est quand même regrettable.
Mais pourquoi?
Nous sommes au 21e siècle.
Oui, mais pourquoi personne n'ose lever le petit doigt, justement? Parce qu'il y a une telle terreur, une telle tension, ou parce qu'on a peur aussi de perdre son emploi? Il y en a qui disent aussi, oui, voilà, il y a des journalistes qui sont des journalistes alimentaires. Comment expliquer que personne ne se lève? Est-ce que vous vous sentez pas défendu, pas soutenu aussi par les organisations des droits de l'homme ou par des syndicats suffisamment puissants?
En fait, nous, dans notre pays, nous pensons que cette notion de journalisme est mal comprise. Parce que nous voyons, même la mise en place du syndicat, c'est tout récemment que nous avons pu mettre en place le syndicat des journalistes. Et nous sommes en train de nous battre pour mettre en place la convention collective des journalistes et un projet qui est largement piétiné par les patrons de presse parce qu'ils pensent que cette convention collective, c'est contre eux. Et c'est ce qui fait que nous n'avons pas beaucoup plus de force, beaucoup plus d'union pour aller de l'avant. Et je pense bien que, Inch'Allah, dans les temps, ça va donner fruit. Nous sommes en train de se battre pour ça. Il n'y a pas de règles sans exception. Il peut y avoir des journalistes alimentaires, mais je pense bien que les journalistes sont mal vus dans ce pays. Il faudrait que la donne change.
Et quand vous dites mal vu, c'est aussi donc par la population ou par certains cercles, évidemment, politiques, économiques, ainsi de suite, qui sont dérangés par les recherches de la presse, parce que quelquefois la presse fait mieux son travail d'investigation, par exemple, que la justice, notamment.
En fait, mal vu par rapport aux politiques, par rapport aux citoyens, parce que dans mon pays, lorsqu'on parle, lorsque tu te présentes tout de suite journaliste, les citoyens pensent que tu es un menteur.
C'est ça, estampillé de façon négative déjà dès le départ.
Voilà, dès le départ, c'est ça. Et je pense qu'avec le temps, ça va changer. Nous sommes en train de se battre. Aujourd'hui, il y a quand même un institut de journalistes qui forme des journalistes professionnels. Nous pensons que la donne va changer parce que nous savons que sur le terrain en Guinée, il y a quand même beaucoup plus de journalistes qui n'ont pas suivi des formations professionnelles, qui font assez de couac, et nous pensons que ça va régler la situation.
Pour éviter de porter tort à toute la profession finalement.
Exactement.
Et quand vous dites les patrons de presse, c'est de la presse privée ?
La presse privée, parce que en fait, il y a une association, l'URTELGUI, l'Association des télévisions et radios libres de Guinée. Mm-hmm. Et nous avons mis ce projet de convention et après, nous avons demandé qu'il y ait une journée pour en discuter, mais jusqu'à présent, il n'y a pas une volonté réelle. Donc, c'est un projet qui est suffisamment piétiné, mais nous sommes là en se battre. On ne va pas lâcher, quelle qu'en soit la situation, on va essayer de faire quelque chose, se donner la main, se lever comme un seul homme pour qu'on puisse mettre en place une convention collective des journalistes en République de Guinée.
Faire preuve de solidarité.
Exactement.
Mais est-ce que les pressions aussi peut-être s'accentuent là maintenant en ce moment au vu des élections locales qui vont enfin avoir lieu là le 4 février après avoir été plusieurs fois reportées?
La pression, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Nous avons vu comment ces derniers temps la presse a été traitée avec les histoires de subventions, les histoires de redevances, tout ça là. En fait, c'est une façon peut-être de faire taire la presse parce que nous savons que cette fameuse question de troisième mandat est en train de se présenter. C'est des journalistes qui se lèvent quand même pour dénoncer cette situation et c'est une façon aussi de faire taire.
Bien sûr,
les journalistes.
De trouver des prétextes techniques, ainsi de suite, ou de taxes pour pouvoir faire taire
l'expression. Et c'est ce que pense d'ailleurs la quasi-totalité des journalistes. Vous allez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous allez voir des réactions venant de toutes parts par rapport à ça. Et tout le monde pense que c'est une façon de nous faire taire, mais ça ne va pas s'arrêter là. Nous sommes considérés comme le quatrième pouvoir et nous pensons l'exercer.
D'accord. Et comme femme, vous avez l'impression que vous avez la vie d'autant plus difficile ou ça fait finalement pas tellement de différence?
Il n'y a pas tellement de différence vu la façon dont les journalistes, nos confrères et consœurs ont été traités ces derniers temps. Il n'y a pas de différence. Nous sommes traités au même pied d'égalité. Oui. Et je pense bien que la donne va changer un jour. Nous sommes en train de nous battre. Peut-être que la nouvelle génération qui viendra après nous trouvera la situation mieux par rapport à nous.
Bah écoutez, on vous le souhaite en tout cas.
Merci beaucoup, merci à vous aussi.
Pour rappel, lors des 46e assises de l'Union internationale de la presse francophone à Conakry, en novembre dernier, le président Alpha Condé avait accusé les radios d'encourager les syndicalistes dans leur grève, en passant leurs communiqués ou interviews. Et il avait prévenu que désormais, quiconque se hasarderait à diffuser leurs communiqués sera considéré comme complice et sa radio sera fermée. À Madagascar, ce qui inquiète les journalistes, c'est l'interférence du gouvernement dans la délivrance de la carte professionnelle, mettant à l'écart l'ordre professionnel existant. Une menace pour la liberté de la presse. En témoigne Ferdinand Ratimbazafi, l'un des 5 vice-présidents de l'ordre des journalistes de Madagascar.
La presse est menacée par rapport à ce qui se passe actuellement. Pourquoi? Parce qu'on a une réelle interférence de l'État donc dans le corps professionnel des journalistes, je m'explique. Il y a donc l'octroi de la carte presse qui est maîtrisée par l'État. C'est l'État qui a créé une commission à travers le gouvernement et via le ministère de la Communication. Et c'est eux donc qui vont avoir une base de données de la presse malgache et c'est eux qui vont choisir qui sont journalistes et qui ne le sont pas. C'est une carte professionnelle, vraiment, maîtrisée par l'État, dessinée par l'État.
Donc depuis la fin de l'année dernière, le gouvernement s'est arrogé ce droit de délivrer la carte de presse à la place des associations de journalistes.
Oui, exactement, écrit à l'encontre de la loi existante, parce que là, on a un code de la communication, et dans son article 55, c'est stipulé que l'ordre professionnel des journalistes s'assure de l'octroi de la carte professionnelle aux journalistes. Et vraiment, on a fait fi de cette loi-là et de l'article en question.
Mais donc, les 5 vice-présidents de l'ordre des journalistes, dont vous êtes d'ailleurs, ont protesté pour dire non donc à cette interférence du gouvernement. Est-ce qu'on vous a reçu? Est-ce qu'on vous a écouté?
Je pense pas. On a tiré de la sonnette d'alarme sur les conséquences qui vont se produire et on n'a pas écouté notre demande.
C'est-à-dire qu'on s'enfonce davantage dans cette limitation de la liberté de la presse que dénonçait déjà Reporters sans frontières dans son rapport 2017, disant que justement le code pénal statue sur les délits de presse et mène justement à une criminalisation de la profession, c'est-à-dire que de lourdes amendes sont prévues justement pour, par exemple, outrage à la diffamation ou à la divulgation de fausses nouvelles. Donc, est-ce que certains journalistes ont déjà été sanctionnés depuis ce nouveau code de la communication qui a vu le jour?
Oui, l'année dernière, il y avait un journaliste qui a été emprisonné par rapport à ses propos dans la presse. Et voilà, la pénalisation de la presse est active. Et le piège, c'est qu'il y a aussi le code sur la cybercriminalité. C'est-à-dire que même si j'écris dans la presse écrite, et puis cet article-là, je passe sur l'Internet, c'est-à-dire sur le site web de l'organe de presse auquel je travaille. À partir de là, on pourrait me porter plainte pour diffamation si une personne se sent diffamée. Mmh. Et à partir de là, c'est le code de la cybercriminalité qui est appliqué, qui est encore au titre de l'emprisonnement en l'état actuel. Voilà, donc c'est vraiment cette parallélisme de forme, ça va encore vers la criminalisation du métier. Et à propos de la carte de presse, je reviens un peu.
Oui.
Le processus est déjà en cours à Madagascar. Il y a déjà le recensement pris par le ministère dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà, ils vont clôturer cette liste, je pense, le 5 février prochain. Ils vont sortir la carte de presse maîtrisée par l'État, donc, en mars prochain.
Ce qui va annuler toutes les anciennes cartes de presse donc précédentes.
Oui, exactement. Voilà quelle est la menace. On sait très bien que l'année 2018 est une année d'élection présidentielle et on craint fort que ceci explique cela, c'est-à-dire qu'on veut maîtriser la presse, comme quoi on s'achemine vers une pensée unique et pour ne pas dire dictatoriale. C'est vraiment une menace pour la liberté de presse en Madagascar.
Et selon vous, quels sont les espoirs de pouvoir freiner ce muselage pratiquement de la presse? Oui, puisqu'on sait que le Parlement européen, par exemple, en novembre dernier, avait déjà dénoncé l'arrestation arbitraire des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et désapprouvé les mesures prises à l'encontre des médias, avant déjà les dernières élections d'ailleurs, et demandé justement le rétablissement complet de toutes les libertés individuelles et collectives.
Justement, on fait appel aux instances internationales, on a signalé Reporters sans frontières et puis la Commission pour la protection des journalistes internationales. Et c'est notre dernier espoir, il faut le dire, ils ont les pouvoirs et on n'est pas initiateur de loi non plus. Donc notre seul espoir, c'est cette intervention étrangère, comme vous l'avez dit. Voilà, il y a la prolifération des médias pro-régime, et de l'autre côté, ceux qui demandent une extension, c'est toujours réfugiés tant qu'ils ne sont pas avec le régime.
Notez que lors d'une conférence de presse cette semaine, pour marquer son arrivée au pouvoir voilà 4 ans, le président Rajonarimampian n'a pas directement annoncé sa candidature à la présidentielle, prévue à la fin de l'année, mais il a demandé aux malgaches de lui laisser le temps de réaliser son plan économique pour le pays. Voilà, si ce sujet vous inspire, n'hésitez pas à m'envoyer votre point de vue. De même, si vous avez d'autres thèmes qui retiennent votre attention, envoyez-moi par exemple un mail. Mon adresse, c'est mireille.drone, drone@dw.com. Vous pouvez aussi communiquer avec nous via WhatsApp. Pour vous inscrire gratuitement, tapez tout simplement dw.com/WhatsApp et vous pourrez nous y laisser des messages message parlé ou écrit et en plus, vous recevrez nos informations. Et puis, notez encore que vous pouvez retrouver cette émission du Club des auditeurs internautes, comme tous les programmes du service en français de la Deutsche Welle, sur notre site internet. Notre adresse, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, c'est dw.com/français et dans ce cas, français sans cédille. Vous y retrouverez aussi les liens vers nos pages Facebook et Twitter. À très très bientôt de vos nouvelles, j'espère. Merci de votre fidélité, de votre écoute et excellent week-end à tous. Au revoir.